Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sybille Blumenfeld, qui va nous parler de l'ouvrage qu'elle a dirigé, Anna Weissmann-Andrenaer, cette chose indispensable qui reste invisible et que je sais voir et entendre, correspondance 1962-1988, qui vient de paraître aux éditions de l'Éclat. Bonsoir Sybille.
Bonsoir Sandrine.
Alors c'est un plaisir de vous recevoir, c'est une première dans cette émission et d'autant plus que la thématique qui nous vaut votre présence ici est tout à fait intéressante de mon côté, mais je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Si vous en êtes d'accord, quelques mots de présentation et de vous et de cet ouvrage. Vous êtes l'épouse de Samuel Blumenfeld, le fils unique de l'artiste Anna Weissmann, mais vous présentez uniquement à travers ce lien serait quand même réducteur. Votre engagement personnel, votre regard sensible et votre implication active dans la valorisation de l'œuvre d'Anna Weissmann montrent combien vous jouez un rôle essentiel dans ce projet. Vous contribuez à faire vivre cette mémoire artistique en participant à la recherche, à la transmission et à la mise en lumière du parcours de cet artiste dont l'histoire mérite d'être pleinement reconnue. Alors votre actualité, c'est cette parution, hein, ce livre de correspondance entre Anna Weissmann et Andrenaer, paru aux éditions de l'Éclat. Cette chose indispensable qui reste invisible et que je sais voir et entendre, eh bien c'est le titre. C'est un recueil bouleversant de la correspondance entre l'artiste et le penseur entre les années 1962 et 1988. À travers ces lettres, c'est une amitié d'exception qui se dévoile, faite de confiance, de quête spirituelle et d'une profonde complicité intellectuelle. Anna Weissmann, artiste farouchement autodidacte, y explore le judaïsme en sculptant les lettres hébraïques qu'elle considère comme des formes vivantes porteuses de sens infini. Ses échanges avec Néer viennent nourrir sa foi intuitive et l'encourager à poursuivre son œuvre à la frontière du visible et de l'invisible. Et ce livre est un document rare, précieux, qui rend hommage à deux voix majeures du judaïsme du XXe siècle, unies par le langage du cœur et de l'esprit. Alors, la première question évidemment qui s'impose, qui était Anna Weissmann? Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait à la fois intime et artistique de cette femme singulière qui était votre belle-mère?
Oui, je vous remercie. Alors, j'ai publié cette correspondance aux éditions de l'Éclat il y a 2 ans maintenant et ça a marqué le début du retour dans la lumière de cette artiste absolument singulière qui a eu une période faste, des périodes d'ombre et de lumière et qui était oubliée depuis sa mort en 1995. Et moi, l'ayant rencontrée à la fin de sa vie, j'ai été frappée par ses intuitions fulgurantes, son énergie et le message qu'elle avait à nous apporter et qui aujourd'hui me paraît encore plus d'actualité. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer ma vie. Je vous remercie du résumé que vous avez fait de cette histoire qui est très belle. Et qui m'amène sur le parcours d'Anna Weissmann. J'ai fait une première exposition en 2023 suite à la publication de ce livre à Strasbourg où elle est née et où le consistoire du Bas-Rhin consacrait une année à Andrenaer. Philosophe qui reste aussi tout à fait d'actualité, bien qu'il ait été un peu oublié. Et je continue ce parcours à Paris et maintenant à Tel Aviv, où j'ai une exposition à l'Institut français de Tel Aviv qui s'appelle « Shir Lechaim, une ode à la vie », parce que Anna Weissmann, par son parcours artistique libre et authentique, incarne une véritable célébration de la vie.
Alors, j'ai plusieurs questions, je vous interromps.
C'est une enfant qui a démarré sa vie par la guerre.
Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement, eh bien, vous ne vous ressemblez pas un petit peu avec Anna Weissmann? Est-ce qu'elle n'est pas une sorte de miroir de vos préoccupations?
Alors, je vous remercie de cette question, Sandrine, parce qu'il y a des correspondances. Alors, on parle de correspondances dans le double sens du terme. Il y a une correspondance entre Anna Weissmann et Andrenaer dans les doubles sens du terme. Et moi, effectivement, je trouve qu'il y a une correspondance entre nos vies. C'est une femme qui a eu plusieurs vies, qui a toujours cherché à bouger, à être en mouvement et à se réinventer, et qui a sublimé ses déchirures. Comme je le disais, c'était une enfant de la guerre et qui a dû partir en exil et a été arrachée brutalement à l'enfance. Et malgré cela, elle a choisi de vivre dans son univers de future danseuse, dans son projet de devenir danseuse professionnelle. Et elle a réussi, dès la libération, à devenir danseuse professionnelle de l'Opéra de Strasbourg. Ensuite, elle a eu une grande carrière de danseuse. Et elle a forcé sur son corps et elle s'est abîmée le corps. Elle a eu une déchirure personnelle, une déchirure corporelle. Et au lieu de se lamenter, elle a dit « c'est un signe du destin, je dois me réinventer ». Eh bien, moi, il m'est arrivé la même chose. J'ai eu une carrière, une belle carrière de directrice financière. Et j'ai eu un accident. Je suis tombée d'une échelle. L'échelle est importante. Alors que j'étais en train de nettoyer une sculpture d'Anna Weissman dans les hauteurs, dans les sommets. Et je me suis dit, c'est un signe du destin, je dois me réinventer et je dois consacrer ma vie à faire connaître cette artiste merveilleuse. Et la vie d'Anna Weissman me parle à moi personnellement et m'inspire pour ma vie personnelle. C'est pour ça que j'ai pensé qu'elle pouvait inspirer d'autres personnes et qu'aujourd'hui que la guerre est vraiment dans nos vies, j'ai eu envie d'apporter cette belle énergie aux Israéliens à Tel Aviv.
L'ouvrage est un ouvrage de correspondance, on l'a dit, entre Anna Weissman et André Néer. Et là aussi, il y a des points communs, puisqu'elle est née à Strasbourg en 1928 et Néer est née en 1914 à Obernai, en Alsace. Pourquoi ce lien de la correspondance pour la faire connaître au plus grand nombre, hein? Vous l'avez rappelé, c'est un livre qui est paru il y a presque de 2 ans. Pourquoi la genèse de ce projet ou comment la genèse de ce projet ?
Mais en fait, ma rencontre avec Anna Weissman a été de l'écouter parler, et cette femme parle comme un livre. Elle parle comme un philosophe, elle parle comme un poète. Il y a des artistes qui font et qui disent « mon art parle pour moi, je ne sais pas parler ». Et c'était une femme qui savait extrêmement bien parler de son travail. Et je me disais que sa parole était aussi riche, c'est une artiste vraiment complète, aussi riche que son œuvre matérielle est belle. Voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer la veuve d'André Néer, Rina Néer, quand je suis allée à Jérusalem avec mon mari, et elle tenait à ce projet. Elles en avaient parlé avec Anna Weissman, puisque André Néer est mort en 88, 7 ans avant Anna Weissman, et elle pensait que c'était un ouvrage vraiment valable. Elle avait rassemblé déjà en tant qu'historienne une partie des lettres. Elle avait travaillé avec Karine Brenner. Le travail n'était pas abouti, mais je me suis dit que c'était une formidable introduction à son travail, et pour que ce soit complet, il fallait qu'il soit illustré. Parce que souvent, il y a des livres d'art, des livres sur Frida Kahlo, des personnages comme ça, magnifique comme Anna Weissman, et sans illustration, et on est frustré quand on décrit un tableau. Et moi qui me suis plongée dans ses archives, je savais quand elle parlait d'une œuvre qu'elle était en train de faire, de quelle œuvre il s'agissait, et j'ai pu mettre en dialogue le travail, les œuvres plastiques d'Anna Weissman et ses paroles qui sont vraiment éclairantes.
Alors vous citez le nom de Renée Rina Néer-Bernheim, hein, l'épouse d'André Néer, sans qui évidemment il n'aurait peut-être pas fait tout ce qu'il a fait, bien qu'il était évidemment un des penseurs majeurs du renouveau des études juives à partir de la libération en France, puis après son alliage en Israël. Renée Néer introduit le livre de la même manière que Karine Brenner que vous citez et Nelly Hanson. Pourquoi ces contributions étaient importantes pour ouvrir le livre ?
Parce que en fait, il y a un certain nombre de faits qui se sont penchés sur Anna Weissman. André et Rina Néer ont été véritablement des amis sincères qui l'ont aidée à traverser cette solitude. J'ai été frappée par ces rencontres brèves que j'ai eues avec donc Anna Weissman, puis ensuite Rina Néer, que j'ai trouvée aussi une femme déterminée et clairvoyante. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'elles soient les marraines de ce projet. Et à la fin de sa vie, Anna Weisman a rencontré Nelly Jonson, qui dirigeait la Fondation du judaïsme français. Elles ont eu une relation très profonde. Et Nelly Jonson a tout à fait compris Anna Weisman. Elle voulait faire des choses avec elle. Et puis Anna Weisman est morte peu de temps après. Donc elle avait fait une conférence magnifique sur cette correspondance qui était inédite. Elle avait vu des archives de première main. Et je trouvais que c'était ces regards croisés étaient magnifiques. Et je voulais les offrir au public.
Alors, ils aident évidemment à comprendre ce qui va se passer par la suite. Et ce qui se passe par la suite, c'est une première lettre adressée par Anna Weisman à André Neher le 22 février 1962. Elle l'appelle Monsieur le Rabbin et elle lui explique qu'elle a lu son livre Notes sur Coëlette et que ce livre l'a bouleversée. Et André Neher va lui répondre ce qu'elle n'attendait pas. Et là va débuter une correspondance qui va sans doute occuper une place importante dans la vie et l'œuvre et la réflexion des deux protagonistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment l'un influence l'autre, finalement?
C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on pourrait penser de manière superficielle qu'une artiste plus jeune, qui se forme toute seule, est une élève d'André Neher, alors qu'en fait, elle a tellement des fulgurances et des visions, elle est tellement visionnaire, qu'elle influence aussi André Neher. C'est un dialogue d'égal à égal. Ce qu'il comprend tout de suite, quand elle lui écrit un courrier des lecteurs, donc ça pourrait être en position vraiment d'élève à maître, et lui dit « Vous avez tout compris et vous devriez lire d'autres de mes ouvrages parce que vous me questionnerez et on pourra avoir vraiment un dialogue fructueux. » Et il lui conseille de lire Jérémie, son ouvrage consacré au prophète Jérémie, parce que c'est un spécialiste de la prophétie. Et Anna Weisman en est une sans le savoir. Elle prétend ne pas être un prophète, mais elle est véritablement visionnaire. Et dès qu'il lui parle de ça, elle décide de sculpter Jérémie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle sculpte Jérémie non pas... C'est une histoire absolument magnifique qui démarre cette correspondance. Elle décide de ne pas lire le Jérémie d'André Neher pour ne pas l'illustrer. Elle lit juste l'histoire dans la Bible et elle a une vision entière de la richesse de ce personnage qui est déchiré, qui est à la fois tragique et lumineux. C'est assez proche d'Anna Weisman. Et elle sculpte ce Jérémie. Elle sculpte ce Jérémie en rajoutant deux lettres hébraïques, le Kof et le Tsadé, qui couronnent sa tête. Et elle envoie la photo à André Neher, en ne sachant pas pourquoi elle a fait ça. Et il lui interprète son œuvre en disant « Vous avez mis Ketz, la femme messianique, celle auquel tendait Jérémie et auquel nous tendons tous. » Et Anna Weisman en est la première surprise. Elle dit « Vous voyez dans mon œuvre ce que je ne sais pas voir moi-même. » Et quand elle lit le Jérémie d'André Neher, elle voit la proximité qu'ils ont, sans même s'être concertés. Ils sont sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui est très beau. Ça se passe là-dessus, mais ça se passe aussi sur la musique. Ce sont deux grands musicologues. Ils parlent de Schoenberg. Merci. Et Anna Weisman dit des choses absolument inédites là-dessus. Elle dit que le dodécaphonisme vient du son du chauffard et que Schoenberg n'a rien inventé. Donc elle est assez iconoclaste et elle pense en dehors de la boîte. Voilà. Et ça intéresse beaucoup André Neher et je pense que ça peut influencer en partie sa pensée, sachant qu'il la guide aussi pour comprendre, comme on l'a vu dans cet exemple, ce qu'elle fait dans ses œuvres sans le savoir, en fait, par intuition.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est qu'il y a finalement plusieurs regards, parce qu'au-delà de la correspondance, et notamment pour la période Jérémie, les carnets de Anna Weisman qui sont reproduits et on voit comment quand elle commence sa sculpture, elle pense qu'elle est loupée et l'interprétation et d'André Neher et de Charles Blumenfeld sont importants. Et là, je voudrais introduire une nouvelle idée. Peut-être que vous avez même sans doute un élément de réponse. On a l'impression que dans cette relation entre André Neher et Anna Weisman, il y a un rapport à la spiritualité qui est apparemment différent. Il y a l'artiste, artiste libre penseuse. Et puis, il y a le rabbin. D'ailleurs, elle s'adresse à lui comme ça, à André Neher, ce qui était quand même rare à l'époque. Hein. On le voyait davantage comme un professeur d'université ou un bâtisseur ou un écrivain ou un penseur. Mais en même temps, donc, elle qui se dit quelque part éloignée de la religion, lui qui en est très proche, mais finalement, on a l'impression qu'il se retrouve sur ça. Et puis, avec ce rapport à Charles, qui lui est religieusement plus proche d'André Neher. Comment se passe cette triple relation ?
Eh bien, Anna Weisman est une femme libre. Donc la liberté, c'est vraiment ce qui la caractérise. Donc elle n'est pas dans la religion et la pratique religieuse, elle est dans la mystique juive. Elle capte l'énergie invisible du divin. Elle a une relation intime avec le divin et sans médiation de la religion. Mais la pensée, les livres d'André Neher ont des aspects fantastiques et il s'est intéressé au golem. Il a aussi un rapport extrêmement libre à la pensée juive, donc ils se rejoignent là-dessus. Anna Weisman a rencontré son mari tardivement. C'est un enfant de la guerre comme lui, d'un milieu ashkénaze comme elle, mais plus traditionnaliste. Elle était dans la culture et lui, il était plus dans la religion. Et je pense que c'était une recherche pour elle, un ancrage, bien qu'elle le dépassait largement par son intuition et qu'elle se permettait d'avoir une pratique religieuse tout à fait libre, respectueuse, mais pas du tout au pied de la lettre. On va parler des lettres.
Oui.
Pour elle, les lettres hébraïques sont une comme l'échelle de Jacob, un objet abstrait, objet parce que visible et palpable, et abstrait parce que c'est l'incarnation de la réalité spirituelle fondamentale. Et en fait, elle passe par là pour c'est une médiation entre l'âme et le corps.
Alors parlez-nous un petit peu plus longuement de ses œuvres. Elle réalise des œuvres d'art en transformant l'alphabet hébraïque en matière vivante, presque sacrée. Selon vous, qu'est-ce qui infuse sa démarche ?
Ben elle se situe dans la Genèse, hein, dans l'origine du monde. Dans la mystique juive, l'homme est l'associé de Dieu dans la création. S'il sait capter l'énergie qui lui a été insufflée lors de la création du monde, hein, puisque l'homme est la première sculpture, de la glaise absolument matérielle, plus le souffle divin qui lui permet de se relier le monde matériel avec le monde spirituel. Et Anna Weisman incarne tout à fait cet aspect-là des choses. Elle capte la lumière spirituelle. En tant qu'artiste, elle continue de créer et poursuit la création divine. Et en tant que femme qui porte la vie, elle est vraiment dans la matière et dans la création. Donc elle est dans cette démarche-là. Et les lettres hébraïques, selon la mystique juive, sont à l'origine du monde, donc elles sont vivantes, nous sommes constitués de lettres, et elle les voit ainsi, et elle a vraiment un rapport intime avec les lettres hébraïques, elle est magicienne, elle transforme de la 2D en 3D, elle ne connaît pas l'hébreu au-delà de lire le livre de prière de son mari, de voir une lettre à plat, et elle cherche la face cachée de la lettre. Donc elle nous permet de la voir en trois dimensions. Et pour elle, c'est une perfection d'équilibre dans l'espace. Elle a vraiment une vision spatiale des choses. Et elle sent que ce sont des corps vivants. Elle dit avec des polarités, des lettres qui s'aiment et des lettres qui se détestent. Donc elle sculpte les lettres hébraïques, mais pas que. Elle sculpte aussi des mots qui sont magnifiques, comme « Naisse le miracle ». Comme Chai la vie, lève le cœur, où on voit le Lamed et le Bet qui sont embrassés. Et en fait, elle devine par son intuition et par son observation de la forme le secret, le sens caché des lettres. qui l'amène à comprendre la réalité spirituelle fondamentale.
Alors, il faut dire aussi comment elle travaille, sans outils professionnels en quelque sorte. Hein, c'est presque du bricolage. On a là, vous parliez de golem tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça. Elle façonne, elle travaille et cela donne un résultat qu'on n'imagine pas de la manière dont elle l'a réalisé. Est-ce que selon vous, ça traduit vraiment à la fois un geste radical, mais en plus une force intérieure pour arriver à réaliser de telles sculptures avec finalement pas grand-chose.
Ah, tout à fait, j'aime bien votre expression de geste radical, Sandrine, ça me plaît beaucoup, je vais le garder. Il y a une forme de radicalité chez Anna Weissman, c'est évident, elle est sans concession, authentique, c'est radical et en même temps elle trouve l'équilibre et l'harmonie. Elle est complètement paradoxale en fait, c'est-à-dire que je vais faire une autre exposition cet été en France, dans le Perche, et je vais l'appeler l'Arte Povera Libre d'Anna Weissman. Donc ça rejoint ce que vous disiez en fait, avec des outils rudimentaires, des cailloux qu'elle va récupérer sur des chantiers de démolition, elle va les sublimer et va en faire des œuvres qui sont extrêmement belles et qui sont lumineuses. Elle va tirer la matière vers le spirituel et c'est ça la mission de l'homme, la mission du peuple juif. Et elle incarne tout à fait ça, en fait. Elle fait descendre le spirituel dans la matière.
Ou elle le fait
Et qu'elle
monter.
n'oppose pas.
Ou elle le fait monter parce
et
qu'à
elle fait
partir
monter
de rien, on voit une de ses œuvres et ça nous interroge. Est-ce qu'on peut, ce mot vous conviendrait si on peut dire qu'elle était torturée ou c'est réducteur?
Oui, elle est torturée par l'immensité de sa tâche. Et c'est pour ça qu'elle est proche de Jérémie. Jérémie est un prophète torturé. Elle est comme un prophète. Elle capte des choses et dans sa correspondance, elle parle véritablement de rêves où elle voit la main de Dieu. C'est l'être hébraïque qui l'obsède et qui l'écrase en fait. Le prophète est dans une situation paradoxale. Il est au milieu des hommes, mais il capte des choses qui sont parfois effrayantes. Mais elle, étant une artiste, une belle artiste. Elle arrive à passer de l'écrasement et d'une forme de situation terrifiante à un équilibre et une harmonie. Et c'est là qu'elle, c'est une alchimiste, en fait. Elle transforme le plomb en or. Et oui, vous disiez monter, ça monte et ça descend, en fait. C'est la communication entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme l'échelle de Jacob, il y a des anges qui montent et qui descendent. En fait, elle passe du monde en haut au monde d'en bas.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Sibyl Blumenfeld qui nous parle de l'essai Anna Weissman-Andrenner, cette chose indispensable qui reste invisible et que je sais voir et entendre, correspondance 1962-1988, paru aux éditions de l'Éclat il y a quelque temps maintenant. Sibyl, en quoi ce dialogue entre une artiste et un penseur peut-il nous éclairer, nous inspirer en 2025, alors que, juif ou non juif, hein, nous traversons une période quand même compliquée?
C'est très intéressant de les voir. Ils sont des survivants de la guerre qui ont chacun à leur façon réussi à passer cette période très difficile. Andrenner s'est installé dans un château qu'il a appelé Mahanaïm, les deux camps, et où il a fait une Haggadah illustrée. Donc des commentaires et des images sur la libération du peuple juif. Hein. Qu'est-ce que c'est la Haggadah? C'est la libération. Anna Weissman a vécu cette guerre en exil et de façon difficile, mais avait sa tête et son cœur dans la danse, qui est aussi un mouvement perpétuel, une libération. Et donc, profondément marquée par la difficulté, le dur bonheur d'être juif, écrivait Andrenner, et il disait à propos d'Anna Weissman, on pourrait ajouter pour vous le dur bonheur d'être une artiste juive. Donc c'est difficile, mais en même temps ils font des choses sublimes et ils ne s'arrêtent jamais. Donc comme le disait le rabbi Nachman de Bratslav, la vie est un pont étroit, mais il faut ni se précipiter en courant pour tomber, ni rester figé. Et cette artiste n'a jamais été figée. Et elle avait toujours une quête, une découverte qui l'enthousiasmait. Et elle sublime ses déchirures. Elle a des œuvres qui s'appellent d'ailleurs les déchirures. Ce n'est pas rien. Elle les a parfois fait à la lame de rasoir, au pic à glace. Il y a un côté morbide. Ça aurait pourrait être morbide. Et en fait, elles sont blanches et lumineuses et elles ouvrent des perspectives. Donc aujourd'hui que nous sommes tentés d'être terrassés par la guerre qui nous entoure, par la montée de l'antisémitisme, ces deux êtres qui ont vécu les heures les plus noires ont toujours poursuivi leur quête de réflexion, de beauté, de spiritualité, et ils peuvent nous guider aujourd'hui dans nos inquiétudes.
Dans votre démarche, vous portez la voix d'Anna Weissmann au travers de cette édition et de manifestations, dont une qui a lieu prochainement, dont on va reparler. Est-ce que d'être très proche de cet art, de son judaïsme ou même de cette écriture, est-ce que ça a changé quelque chose à la fois à vous et peut-être à elle ?
Ah, tout à fait. Moi, j'étais donc, comme on l'a dit au début, directrice administrative et financière, donc dans la matière. Et puis ben là, j'ai décollé. Elle m'a aidée à réaliser un rêve. J'ai toujours aimé l'art et j'ai toujours été un regard attiré par l'harmonie, la beauté des musées, les belles choses. Et je prends Anna Weissmann comme un rôle modèle, et je pense que c'est un rôle modèle pour les femmes, c'est-à-dire parfois c'est plus difficile le parcours d'une femme, c'est moins naturel, mais on peut apprendre à oser. Voilà, donc Anna Weissmann m'a appris à oser passer de l'autre côté, passer dans le monde des idées, le monde de l'art, et ne pas me retourner et trouver un nouvel élan vital dans une réinvention de ma vie. Et c'est devenu une mission de vie parce que je pense véritablement que cette femme est tellement forte et positive que tout le monde gagne à la lire et à la regarder.
Voilà. Alors, vous portez cette transmission, ce livre qui est finalement un acte de transmission. Il y aura un certain nombre d'expositions et d'événements, dont un très prochainement, le lundi 5 mai à 19h à l'Institut français de Tel Aviv. Il y a à la fois une conférence et une projection, je crois, sur la portée symbolique conceptuelle de son œuvre, à la fois en français avec des traductions simultanées en hébreu. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le déroulé et sur cet événement dont l'entrée est gratuite et libre et ouverte à tous?
Oui, alors il y a une exposition qui se tient à l'Institut français de Tel Aviv depuis le 17 avril et qui se tiendra jusqu'au 22 mai. Grâce à une bonne fée que j'aimerais remercier ici, Karine Bénichoux, qui a lu cette correspondance et qui a parlé d'Anna Weissmann à l'Institut français. Et le relais a été pris par une deuxième bonne fée, Yael Barour, que je remercie aussi, qui m'a aidée à monter ce projet de cette exposition qui s'appelle donc Shir Lechaim, Anna Weissmann, une ode à la vie. Cette exposition est ponctuée par la soirée que vous venez d'évoquer, où je vais projeter le documentaire que j'ai réalisé sur la vie d'Anna Weissmann, de la danse à la sculpture. Et ensuite, nous allons avoir un dialogue avec la philosophe Gaëlle Anna Serrero, qui est spécialiste d'André Néer. Et nous allons toutes les deux dialoguer sur la dimension à la fois artistique et la mystique juive qui se cache derrière les œuvres d'Anna Weissmann.
Alors, on a évidemment maintenant écouté beaucoup de choses sur Anna Weissmann, et quand on est une auditrice ou un auditeur de Radio Shalom, on va avoir envie d'acheter ce livre ou de venir visiter l'exposition et d'assister à la conférence. Comment fait-on ? Est-ce que le livre se trouve facilement ? Et comment on s'inscrit à cet événement à l'Institut français de Tel Aviv ?
Alors, il y a un lien sur le site, mais le succès aidant, l'événement est complet. L'exposition est visible absolument tous les jours, sauf pendant Shabbat et Yom HaTzmaout. L'Institut français est ouvert jusqu'à 22h. Le documentaire que j'ai fait est visible sur YouTube. J'ai fait une chaîne Anna Weissman. Il y a un compte Instagram, annaweissman.art, donc pour les gens qui aiment bien voir un Instagram. Et sur ce compte Instagram, il y a un lien aussi vers le documentaire. Donc,
Donc on
il y
tape
a
Anna
beaucoup de...
Weissman, Weissman, sur
Tout à
Google ou
fait.
sur un moteur de recherche et on retrouve toute cette actualité.
Exactement. Il y aura une exposition aussi dans le Perche cet été. Il y a toujours des choses. Le livre peut se commander. Si la librairie ne l'a pas, il suffit de le demander. C'est distribué avec un distributeur qui est très, très facile d'accès et qui livre les livres à la librairie qui le demande. Ou sinon, par Internet, on trouve toujours. Il est en vente et il sera en vente à l'Institut français de Tel Aviv. Donc, je ferai des dédicaces lors de cette soirée pour les heureux happy few qui ont eu leur place.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour conclure cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive, eh bien, de rencontrer Anna Weissman par ce livre de correspondance, en le lisant, en l'offrant, ou en visitant l'exposition, ou en assistant aux événements, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je dirais qu'Anna Weissman, qui a sublimé les difficultés de l'existence, qui était visionnaire, a créé un art qui ne vieillit pas. Et comme elle le disait elle-même, une œuvre qui ne sait pas vieillir est une œuvre qui n'a jamais su vivre. Et elle a un art et une pensée qui est tout à fait contemporaine et qui répondait hier à des questions qu'on se pose aujourd'hui.
Merci beaucoup, Simile Blumenfeld, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et évidemment, on recommande cet ouvrage, Anna Weissman-Andrenaer, cette chose indispensable qui reste invisible et que je sais voir et entendre, correspondance 1962-1988, paru il y a quelque temps maintenant aux éditions de l'Éclat. On apprend beaucoup de choses sur ces deux personnages, ces deux personnalités, à la fois celle d'Anna Weissman et bien sûr du grand penseur qu'était André Néer, et en même temps sur un contexte. Le contexte de ces années d'après-guerre qui se poursuivent jusqu'à la mort d'André Néer en 1988, et puis sur cette tradition d'enfants d'origine ashkénaze qui ont traversé la guerre et les soubresauts d'un XXe siècle, ponctués par un espoir, la création de l'État d'Israël, dans lequel aussi ils se rejoignent. Merci infiniment, et puis à très bientôt, Sibylle.
Merci beaucoup Sandrine, à bientôt.